Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Lievin Bwinga.
Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Martin Fayulu appelle le gouvernement congolais, les belligérants dans l'est de la RDC au dialogue. Objectif, barrer la route à la balkanisation qui s'approche à grands pas selon lui. L'opposant politique vient de s'exprimer à Kinshasa et le président Félix Tshisekedi vient d'accepter cette demande de Martin Fayulu selon sa porte-parole Tina Salama. Détail dans un instant. Et puis, encore des morts en Ituri, 8 personnes tuées et plusieurs blessés enregistrés. Bilan d'une attaque d'hommes armés à Nizi, entité située dans le territoire de Djougou. L'identité des assaillants et les mobiles de cette attaque restent encore inconnus. L'actualité, c'est aussi ces épreuves de l'examen d'État hors session, débuté ce lundi dans l'ensemble du pays. Nous allons nous pencher sur la province éducationnelle Nord-Kivu 2. Son directeur Norbert Bissimoi va nous expliquer ce qui se passe sur place car la province fait face, vous le savez, à plusieurs défis, notamment sécuritaires. Il est notre invité. D'abord, cet appel de Martin Fayulu cet après-midi à Kinshasa. L'opposant politique invite particulièrement et solennellement Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au bon sens. Il les appelle au dialogue et au sursaut d'honneur et de responsabilité. Objectif, barrer la route à la balkanisation de la RDC. L'ancien candidat à la présidence de la République dit, je cite, « L'heure est très grave, nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute de depuis 1960, n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche à grands pas. Nous devons l'arrêter. » Martin Fayulu s'est exprimé ainsi parlant de la crise sécuritaire que traverse la RDC. Tout de suite, Martin Fayulu dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle.
Et la réaction de la présidence de la République ne s'est pas fait attendre. Le président Félix Tshisekedi accepte cette demande de Martin Fayulu. Sa porte-parole Tina Salama écrit sur son compte X, je cite, « Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. » Fin de citation. L'actualité, c'est aussi cette réaction des pays donateurs de la RDC face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Ils se disent préoccupés à la suite de la dégradation continue de la situation humanitaire dans cette partie du pays, notamment dans les zones affectées par les conflits armés et l'insécurité. Dans une déclaration conjointe faite ce lundi, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, la Suède, le Japon, le Canada et la Grande-Bretagne soulignent la nécessité de respecter intégralement la résolution 2773 des Nations Unies, y compris le retrait des forces étrangères non invitées, notamment les forces de défense rwandaises de l'est de la RDC. Grace Hamzati nous explique.
Ces pays donateurs déplorent les difficultés croissantes rencontrées par les acteurs humanitaires, tant nationaux qu'internationaux. Leur engagement essentiel auprès des populations vulnérables est entravé par divers obstacles, notamment les impositions illégales des soi-disant taxes et droits de douane par les groupes armés M23 visés par les mesures des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, indique la déclaration. Ainsi, ils appellent toutes les parties à placer la sécurité et la dignité des populations affectées au-dessus de toute considération politique et militaire. Les pays donateurs saluent par ailleurs la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda, ainsi que d'une déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC M23 en vue d'œuvrer à une trêve, un cessez-le-feu et à un dialogue. Ils appellent toutes les parties concernées, y compris les groupes armés et le gouvernement congolais, à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire et du développement aux populations les plus touchées pour couvrir leurs besoins de base, notamment l'accès à l'eau, la santé des bases, l'énergie et d'autres fournitures nécessaires à la survie. Selon ces pays, cette déclaration s'inscrit dans le cadre du dialogue continu qu'ils mènent avec les gouvernements de la RDC et traduit leur engagement commun à faire appliquer le droit international humanitaire, à préserver l'espace humanitaire et à accompagner le peuple congolais en cette période critique.
Je l'ai souligné tantôt, journée particulière aujourd'hui 2 juin 2025, les épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État session 2024-2025 ont été lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Kinshasa, par exemple, la cérémonie officielle s'est déroulée à l'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa en présence de la ministre d'État en charge de l'éducation et d'autres autorités du secteur. Raissa Malou a insisté sur le respect des consignes de surveillance et sur la fluidité de l'ensemble du processus à travers le pays. Blaise Ndongala Mayanda était sur place, suivant son reportage.
Le début de ces épreuves certificatives marque une étape décisive du calendrier scolaire, engageant la crédibilité du système éducatif ainsi que l'avenir des milliers de jeunes congolais. Le directeur de la province éducationnelle Kinshasa Funa salue le dynamisme et la résilience du gouvernement qui assure la réussite de ces examens malgré le climat de veille patriotique dû à l'agression rwandaise dans la partie est du pays. De son côté, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale s'est réjoui de l'organisation de cette édition, y compris dans les provinces sous occupation rebelle. Raissa Malou exprime ainsi la solidarité du gouvernement envers tous les candidats et particulièrement ceux du Nord et Sud Kivu, dont certains passent ces épreuves dans des conditions difficiles.
Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein, dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires.
Une particularité de cette édition est la prise en charge par les gouvernements de la République des frais de participation des candidats dans les provinces sous occupation.
Du côté du Kasaï oriental, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État a été donné au complexe scolaire du 4 janvier dans la commune de Dioulou. D'après l'inspecteur provincial de la province éducationnelle Kasaï oriental 1, 23 000 candidats, dont 8 000 filles, sont inscrits à ces épreuves. Interrogé par Radio Kapi, quelques candidats disent s'être bien préparés pour affronter ces épreuves. Depuis Mbujimaï, un reportage signé Esther Ndalafina.
Depuis tôt ce matin, plusieurs élèves en uniforme bleu-blanc se rendent au centre de passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Manassé Bilengela éprouve la joie de passer ces épreuves au complexe scolaire du 4 janvier.
Et c'est vraiment la joie. L'État congolais nous a soutenus malgré qu'il y a l'écart à l'Est. On pensait qu'on ne doit plus présenter. Nous sommes prêts. On nous a bien formés. Là, il y a des questions de trembler. On sait bien. On a commencé à étudier ça depuis la 5e. On va bien défendre.
Moi, Dika Bengele Rocher, élève de l'Institut Moulami Mouimpe, prévoit de s'investir pour sa réussite.
Je suis prête avec ma tête, je vais travailler avec mon intelligence.
La province éducationnelle Kasaï Oriental 1 compte 56 centres, dont 19 à l'intérieur de la province. 23 000 candidats, dont 8 000 filles, sont inscrits à ces épreuves. Pierre Kabianda, inspecteur principal provincial du Kasaï Oriental 1, déplore la faible présence des filles à ces épreuves.
Nous allons mener des enquêtes pour comprendre pourquoi il y a pas assez de filles à l'école. Nous allons tout faire pour encourager. Il y a moins de filles, surtout dans le Grand Kasaï. Cette catégorie puisse comprendre que non. Et les titules aussi.
Le gouverneur de province intérimaire a exhorté les candidats à passer ces épreuves dans la quiétude. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Kapi.
Dans la province du Nord Kivu, au moins 69 000 élèves finalistes du secondaire sont inscrits pour les épreuves hors session de cette 59e édition de l'examen d'État. Selon le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Louis Segond Karawa, qui a lancé ces épreuves, toutes les malles contenant les questionnaires ont été envoyées dans les trois provinces éducationnelles avec l'appui de l'UNICEF. Il rassure que tout est mis en place pour le bon déroulement des épreuves. André Kitenge pour les détails.
C'est au complexe scolaire Mousseke dans la commune de Rwenzori à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, que le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a officiellement lancé les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la province. Il a salué la bravoure des candidats qui affrontent ces épreuves dans un contexte sécuritaire difficile.
En cette période cruciale de votre parcours, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour les chemins parcouris jusqu'ici, chers enfants. À travers l'échantillon représentatif ici présent, je souhaite plein succès à tous les finalistes du Nord Kivu, province désormais reconnue pour son dynamisme et sa résilience devant l'adversité.
De son côté, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissimois, rassure que les élèves finalistes déplacés à cause de la guerre passent les épreuves dans leur milieu d'accueil.
Les élèves en situation de déplacement sont pris en charge. Ils sont en train de passer leurs épreuves dans les milieux d'accueil. Ils se sont déplacés, bien sûr, en quittant les zones de guerre. D'où ils sont allés, ils ont été inscrits et maintenant ils sont en train de passer les épreuves sans problème.
Ces épreuves hors session vont durer 12 jours. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Épreuve de l'examen d'État effectif dans plusieurs coins de la RDC, mais qu'est-ce qui se passe dans certains coins du Nord Kivu? En tout cas, le centre de passation des épreuves de Tongo en territoire de Rutshuru est relocalisé à Roubaré à une trentaine de kilomètres. Vous avez certainement compris, c'est une conséquence de l'instabilité sécuritaire qui règne dans la zone. C'est ce que confirme d'ailleurs ce lundi l'inspecteur provincial du Nord Kivu 1. D'après ce responsable de l'éducation, sur près de 200 élèves attendus par le centre, une vingtaine se trouvent déjà à Goma et seront reçus dans différents centres de la ville et le reste pourra passer ses épreuves à Roubaré, toujours en territoire de Rutshuru, une zone plus sécurisée. Plus de détails avec vous, Blaise Shindani.
La région de Tongo, dans la chefferie de Bouito, est secouée par les affrontements récurrents entre les rebelles du M23 et les Wazalendo depuis quelques mois maintenant. Cette instabilité sécuritaire a occasionné des déplacements des populations sur plusieurs directions. C'est pour cette raison que les autorités scolaires ont décidé de délocaliser le centre de passation de Tongo pour Roubaré dans le même territoire, alors que peu avant, il était prévu de délocaliser ce centre à Goma. C'est ce qui explique la présence d'une vingtaine de candidats de Tongo déjà à Goma, affirme l'IPP. Une centaine d'autres qui ont trouvé refuge dans différentes localités de Rutshuru ont rejoint Roubaré ce lundi, indique-t-il. Cette mesure soulage ainsi les parents qui étaient préoccupés par les conditions sécuritaires pour leurs enfants pendant la période des examens. Cependant, pour le territoire des Massissi et Walikale, aucune particularité n'est signalée ce lundi, d'après certaines sources.
Allons à présent du côté du Maniema où plus de 26 000 candidats finalistes des humanités secondaires étaient attendus ce lundi 2 juin pour ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025. La province éducationnelle Maniema 1 pour sa part aligne cette année plus de 18 000 candidats dont plus de 7 000 filles et 11 000 garçons. C'est le gouverneur de province qui a lancé ces épreuves à l'Institut de l'ENANO. Du côté du Sud Kivu, par contre, une accalmie s'observe ce lundi entre les parties belligérantes AFC M23 et les Wazalendo. Cela après deux jours d'intenses combats dans le groupement de Mbinga Sud, territoire de Calais. Une accalmie qui facilite fort heureusement la passation apaisée des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui a démarré ce lundi, explique certaines structures de la société civile de Calais. Cependant, plusieurs jeunes, y compris certains élèves finalistes des humanités, ont fui en direction de Calais. Centre. D'autres jeunes présumés appartenir au mouvement Wazalendo ont été emportés vers une destination inconnue par les rebelles, rapportent des sources de défense des droits humains à Calais. Le point avec Stanislas Djouimi.
L'accalmie de ce lundi 2 juin est une opportunité aux jeunes finalistes de vaquer librement au centre de passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État dont le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Le territoire de Kalehe a connu des affrontements violents depuis vendredi passé jusque hier dimanche dans le groupement de Mbinga Sud. Les rebelles de l'AFC M23 ont échangé des tirs avec les Wazalendo dans le village de Tchofi à 50 km au nord de Bukavu. La La population est restée enfermée chez elle, tandis que d'autres ont pris la direction de Calais Centre pour trouver un abri dans cette partie sous contrôle de l'AFC-M23. L'opération de chasse aux jeunes s'est déclenchée le vendredi à Tchoufi, où les rebelles ont pu emporter 18 personnes vers une destination inconnue. Les activistes des droits humains réclament la libération de ces jeunes, parmi lesquels les élèves accusés par le M23 d'être des Wazalendo. Un de ces jeunes emportés aurait été tué, indique nos sources, qui ajoutent qu'un couple accusé d'être proche au M23 a aussi été enlevé par le Wazalendo dans la localité de Kamounyerere.
Sur un tout autre chapitre, encore des morts en Ituri, 8 personnes tuées et plusieurs blessés enregistrés, bilan d'une attaque d'hommes armés à Nizi, entité située à près de 30 km de Bounia en territoire de Djougou. Des sources locales ajoutent que ces personnes blessées ont été acheminées à l'hôpital Mystère sur l'identité des assaillants et les mobiles de cette attaque, déclare l'administrateur de ce territoire. Il indique toutefois que les services spécialisés ont ouvert des enquêtes à ce sujet.
Actualité internationale.
Une épidémie de choléra sévit au Soudan, pays déchiré par une guerre entre l'armée et les paramilitaires depuis le 15 avril 2023. Si les autorités locales de Khartoum, la capitale, soulignent une baisse de décès et des cas, une ONG, Sudan Doctors for Human Rights, accuse le gouvernement d'essayer de cacher l'ampleur de la catastrophe. Je vous rappelle que le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé hier dimanche une baisse du nombre de décès liés à l'épidémie de choléra quelques jours après le lancement d'une campagne de vaccination.
L'invité.
Les épreuves préliminaires de l'examen d'État ont été lancées ce lundi sur l'ensemble du territoire national, dans la province éducationnelle Nord Kivu 2, qui couvre les villes de Beni-Boutembo ainsi que le territoire de Beni-Loubero. L'organisation de ces examens fait face à plusieurs défis, notamment d'ordre sécuritaire. En raison de l'insécurité persistante dans plusieurs zones, quelques centres ont été délocalisés, obligeant au moins 15 000 élèves finalistes à se déplacer pour passer leurs épreuves. Pour en parler, nous recevons Norbert Bissé. Ici, moi, directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, il s'entretient ici avec Martial Papi Mukeba.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous donner un aperçu général du lancement des épreuves de l'examen d'État dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 cette année? Combien d'élèves sont attendus et combien de centres sont opérationnels?
D'abord, disons que son excellence, monsieur le vice-gouverneur de la province de Nord Kivu, venait de lancer ce matin les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 pour ce qui est de la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Alors, ces épreuves ici concernent 30 307 candidats, dont 15 108 filles. Cet effectif ici est réparti dans les 103 centres de passation qui sont éparpillés, bien sûr, dans les 12 sous-divisions éducationnelles que compte notre province éducationnelle. Ce matin, le lancement s'est passé très bien et maintenant là, les enfants sont en train de passer ces épreuves sans inquiétude. Nous espérons que ça va aller bien pendant les 3-4 jours de passation.
Comment vous avez pu gérer la question des finalistes déplacés qui ont quitté certaines zones touchées par l'insécurité? Sécurité ou sous-occupation du M23.
Les élèves en situation de déplacement sont pris en charge. Ils sont en train de passer leurs épreuves dans les milieux d'accueil. Ils se sont déplacés, bien sûr, en quittant les zones de guerre. Et d'où ils sont allés, ils ont été inscrits et maintenant ils sont en train de passer les épreuves sans problème.
Est-ce que vous avez les chiffres?
Nous n'avons pas jusque-là les chiffres exactement, mais ce sont des finalistes qui vont jusqu'à 15 000, approximativement 15 000.
Alors, est-ce que tous les centres d'examen sont-ils ouverts, y compris dans les zones affectées par l'insécurité? A-t-on procédé à des délocalisations des centres dans certaines entités jugées à risque?
Les zones qui sont jusqu'à maintenant là, en pleine guerre, comme l'éducation et la politique, les centres sont opérationnels là. Et les malles contenant les items d'examen de temps sont arrivés bel et bien là-bas par l'accompagnement de l'UNICEF. Il est vrai que certains coins, avec l'activisme des groupes armés, on a pu délocaliser quelques centres. On les a approchés. Il y a des centres qui évoluaient en Diapanda, qu'on a rapprochés vers Loubero, qu'on a rapprochés vers Boutembo. Et les enfants, je vous assure qu'ils sont en train de bien passer leurs épreuves.
Quels sont les principaux défis rencontrés cette année dans l'organisation de ces épreuves dans un contexte sécuritaire et logistique parfois difficile?
Les principaux défis que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment les défis sécuritaires.
sécuritaire et qui a fait que les enfants se déplacent. Et c'est normal qu'il y ait même certains enfants qui ont raté ces examens, qui n'ont pas pu passer les examens parce qu'ils n'ont pas pu être en mesure d'atteindre leur centre de passation. Mais dans les gros, en tout cas, le défi sécuritaire reste le plus majeur. La précarité de la vie économique qui accompagne tout ce que nous connaissons comme guerre, aussi c'est un autre défi qui n'est pas négligé. La seule particularité pour notre province du Nord Kivu, c'est que nous sommes dans une situation d'urgence. C'est comme ça que le partenaire privilégié naturel UNICEF a accepté de nous venir en aide en acheminant les items dans les coins et recoins.
Confirmez-vous que l'État a pris en charge les frais de participation de tous les finalistes?
Évidemment, aucun enfant n'a payé un rond pour la participation parce que le Trésor public a pris en charge les frais de passation au bénéfice de tous les finalistes à tous les niveaux.
Un dernier mot, peut-être, à l'endroit des candidats et de leurs encadreurs, surtout dans les zones affectées par les violences, pour encourager leur engagement et leur résilience.
Nous souhaitons à tous les finalistes la bonne chance de passer ces épreuves en toute quiétude. Nous espérons qu'ils vont réussir.
Monsieur le directeur, merci.
Merci aussi, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebou-Jangwe, à Jude Mister Bilanda, Richard Junior Kamunga et à Billy Landry-Betou. Excellente soirée à toutes et à tous.